Bien, j'espère que vous allez tous bien. Ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons prendre un texte de la Bible que nous connaissons tous. Il y a dans ce texte trois paraboles et nous allons les analyser rapidement chacune pour les adapter à notre vie de tous les jours, à notre vie d'Église. Et j'ai donné comme titre à ce message de ce matin, réjouissons-nous avec notre prochain. Et il est vrai que nous ne nous réjouissons pas toujours avec notre prochain. Ce n'est pas toujours l'attitude que nous avons de nous réjouir avec notre prochain. Même nous, en tant que chrétiens, il y a souvent de la jalousie, de la critique qui nous viennent à l'encontre de notre prochain, même quand nous voyons les bénédictions du Seigneur sur nos frères et sœurs, sur notre prochain. Nous avons parfois, au lieu de réjouissance, nous avons de la critique. Et je désire aujourd'hui voir trois domaines où le chrétien devrait se réjouir. Et malheureusement, c'est vrai, ce n'est pas toujours le cas. Eh bien, nous allons lire le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, chapitre 15, et nous examinerons trois paraboles que le Seigneur Jésus a racontées. Et nous commencerons au verset 3. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Jésus nous parle ici du berger de brebis qui se préoccupe de la perte d'une brebis. Et le soir, il rentre ses brebis au bercail, et puis il les compte avant de s'endormir, 1, 2, 3, 4, hein. Et il se rend compte qu'il en manque une, au lieu de 100, ben, il n'y en a que 99. Et Jésus nous dit que ce berger n'a de cesse de la chercher, et il la cherchera pendant toute la nuit, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quelle ténacité, quel courage que ce berger. Il veut que cette brebis perdue puisse retrouver le troupeau, puisse retrouver le bercail, puisse être soignée si elle est blessée. Quel exemple frappant, frères et sœurs, de la part du Père qui recherche le pécheur perdu. Ésaïe 53, verset 6 nous dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Oui, l'Éternel a fait retomber sur Jésus vraiment le châtiment, parce qu'il est venu pour chercher les brebis qui étaient perdues. Et nous étions parmi ce nombre de brebis qui étions loin du Seigneur. Et oui, c'est vrai, nous faisons partie de ce lot de brebis perdues. Ne l'oublions jamais, Dieu nous a cherchés. Dieu nous a cherchés. Et le ciel s'est réjoui quand il nous a retrouvés. Soyons certains que pour chacun de nous, il y a eu la fête dans le ciel quand nous avons rencontré le Seigneur. Il y a une fête pour chacun d'entre nous. Nous pensons peut-être pas toujours ça, mais c'est vrai, il y a eu la fête. Et certainement qu'encore pour l'instant, le ciel est en fête. Parce qu'un pécheur, quelque part dans ce monde, se tourne vers Dieu. Et le ciel se réjouit chaque fois qu'une brebis est retrouvée. Et la joie est partagée dans le ciel. Frères et sœurs, je me pose cette question. Sommes-nous touchés par cette humanité qui entre dans l'éternité sans avoir été mise en contact avec la connaissance de la vérité en Christ? Sommes-nous touchés que chaque jour des milliers et des milliers de personnes entrent dans l'éternité? Quel effet cela nous fait-il? Sommes-nous devenus insensibles? Trop heureux peut-être de savourer égoïstement notre bonheur d'être sauvé. Ah, moi je suis sauvé, merci Seigneur. Ah, les autres, s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, tant pis pour eux, mais moi je suis sauvé, je suis heureux. Sommes-nous vraiment devenus froids face à cette humanité qui se perd sans Dieu et sans espérance? Comment le vivons-nous vraiment? Nous avons un exemple du berger, nous devons nous mettre en quête de la brebis perdue, qui est en fait notre prochain, notre voisin, notre collègue, nos amis, nos proches. Quel est notre témoignage vis-à-vis de nos semblables? Nous préoccupons-nous de leur salut ou passons-nous à côté d'eux en les évitant? Comme dans la parabole du bon samaritain, nous changeons de trottoir. Nous ne nous intéressons pas ou très peu au salut de nos contemporains, de nos voisins, de nos membres de notre famille. Nous passons à côté d'eux sans nous apercevoir qu'ils sont mourants. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Ils sont en train de mourir parce qu'ils sont blessés par les fardeaux de la vie. Ils ont besoin d'aide afin de rencontrer le Seigneur. Essayons du moins de les attirer vers lui. Même si nous ne réussissons pas, au moins nous avons essayé de leur parler de l'amour de Dieu. Avons-nous vraiment ce fardeau pour ce monde qui se meurt spécialement en ces temps troublés? Oui, quand nous voyons ces images de guerre, et c'est vrai que ça nous frappe beaucoup plus parce que ça se passe en Europe, mais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais arrêté de se faire la guerre dans ce monde. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la Corée, il y a eu le Vietnam, il y a eu le Biafra, il y a eu la Syrie, le Liban, enfin, on peut en citer. Mais évidemment, cette fois, il y a eu, pas loin encore de chez nous, en Bosnie, il y a quelques trentaines d'années. Et c'est vrai que ça nous touche un peu plus parce que nous connaissons des Ukrainiens, nous sommes à 1800 plus ou moins kilomètres de la frontière ukrainienne, donc ça nous touche un peu plus, mais ce monde a toujours vécu dans la guerre et nous réalisons que tous les jours, des personnes tombent sous les balles des ennemis et ils s'en vont dans l'éternité. Pouvons-nous ce matin vraiment vivre en tant que chrétiens sans penser à tous ces gens qui s'en vont sans rencontrer le Seigneur? Pouvons-nous, frères et sœurs, ce matin nous réjouir avec le ciel quand un pécheur se repent? Quand une nouvelle personne vient à la connaissance de l'Évangile, quand quelqu'un de nouveau vient au milieu de nous qui ne connaît pas l'Évangile, le regardons-nous peut-être d'une façon étrange, en disant « Qui c'est celui-là? Il a de tête, ce type-là. » comme dirait la chanson. Ou alors sommes-nous heureux de voir quelqu'un de nouveau venir et s'approcher de la vérité? Ou alors on ne veut pas être dérangé dans notre routine. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous puissions avoir ce fardeau de ceux qui se perdent. Bien sûr, c'est peut-être pas possible de parler à tout le monde tous les jours, mais ayons une pensée dans la prière pour ceux qui sont perdus, pour que quelqu'un puisse leur apporter le message du salut, pour qu'ils puissent l'entendre par la radio, par Internet ou par un livre, mais que ces personnes puissent entendre l'Évangile. Réjouissons-nous quand quelqu'un vient au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la réjouissance, à la louange, quand un pécheur se repent. Ayons le fardeau des perdus en ces temps de faim. Montrons de la compassion et de l'amour pour ceux qui se perdent. Demandons cette force à notre Dieu, afin que la bonne nouvelle se propage. Pensons à l'état dans lequel se trouvent les perdus aujourd'hui. Ils sont peut-être dépressifs, malades, découragés. Et alors, ne vivons pas en égoïste parce que nous, on a trouvé le salut et que nous nous sommes sûrs de notre éternité. Il y a un autre aspect de la réjouissance pour nous chrétiens et nous allons continuer la lecture au verset 8 de toujours ce même chapitre. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Avons-nous de la compassion pour nos frères et sœurs dans la foi? En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons passer par différentes épreuves qui peuvent nous affecter. Nous pouvons traverser le deuil, la maladie, la perte d'un emploi, et bien d'autres problèmes peuvent affecter un enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu ne nous épargne pas les épreuves de la vie. Tant que nous sommes sur cette terre, malheureusement, nous subissons comme les autres tous les aléas de la vie. La maladie, le deuil, la souffrance, tout ce que les difficultés financières, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que notre mazout nous coûte moins cher. C'est dommage, mais c'est comme ça, nous le payons au même prix que les autres. Et tant d'événements nous atteignent aussi en tant que les non-chrétiens. En tant que chrétiens, nous appelons ce rassemblement-ci la famille de Dieu. Et bien sûr, dans chaque famille, il y a souvent des problèmes. Et dans la famille de Dieu, il y a aussi des problèmes. Il y a des familles qui ne se parlent plus. Il y a des familles qui, malgré qu'elles sont, ce sont des familles nombreuses, elles ne se voient plus depuis des années. On ne se voit qu'aux enterrements, aux mariages, à certains événements spéciaux. Et bien, malheureusement, c'est comme ça. Et il ne devrait pas en être ainsi dans la famille de Dieu. Nous devrions être solidaires les uns les autres. Et parfois, nous nous battons seuls en tant que chrétiens face à ces problèmes. Nous voyons que cette femme a perdu cette drachme et pour elle, ça avait une grande importance. Et elle retourne toute sa maison, elle cherche cette drachme. Eh bien, oui, nous pouvons aussi être comme cette femme, rechercher la santé, rechercher un bien-être meilleur en tant que chrétien, rechercher des solutions face à nos problèmes. Et quand cette femme retrouve cette pièce, elle appelle tous ses voisins à la réjouissance. Frères et sœurs, je pense qu'il est important que nous, en tant que chrétiens, nous portions les uns les autres. Ensemble, nous portions nos fardeaux les uns les autres. Pas simplement une petite tape dans le dos le dimanche quand on voit un frère, ça ira mon vieux, hein, on pense à toi, bref. Non, je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette responsabilité d'être solidaires, de prier les uns pour les autres. Je pense que nous le faisons. Je pense que dans cette communauté, nous sommes assez solidaires les uns les autres. Nous nous prenons régulièrement des nouvelles de ceux qui sont malades. Prendre des nouvelles, prier, apporter une aide peut-être financière, une aide peut-être matérielle à un frère ou une sœur qui est dans les difficultés. C'est cela, ou faire partie de la famille de Dieu. Redoublons, frères et sœurs, dans la prière, afin que les membres de cette communauté, s'ils sont malades, retrouvent la santé, et que nous puissions les porter dans la prière. Prions afin que les faibles, spirituellement, retrouvent des forces. Encourageons-les, peut-être par un coup de fil ou par une visite. Ne laissons pas tomber ceux qui sont sans force. Que ceux qui sont tristes ce matin retrouvent la joie. Que les déprimés sortent de la dépression. Frères et sœurs, entourons la famille de Dieu d'amour et de compassion. Intéressons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Apportons du réconfort à la famille de Dieu. Ça, c'est la mission que l'Église doit avoir les uns pour les autres. Nous devons, frères et sœurs, nous serrer les coudes, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais pour tout le monde. Et notre ennemi, le diable, aime s'attaquer au peuple de Dieu, le diviser. Ça, c'est sa spécialité, diviser le peuple de Dieu. Et il est facile de critiquer un frère ou une sœur si nous le voyons un peu découragé. Ouais, mais est-ce qu'il prie? C'est la réflexion que nous avons. Est-ce qu'il y s'abîme, comme on dit à Liège, hein? Mais ce n'est pas notre problème, ça. Notre problème, c'est de supporter ce frère et cette sœur qui est dans la difficulté et de prier pour lui. Ce n'est pas mon problème s'il lit sa Bible. ou s'il ne la lit pas, s'il prie ou s'il ne prie pas. Mon problème, c'est de le soutenir spirituellement par la prière, par l'encouragement. Et peut-être par notre action. Ben, ce frère et cette sœur retrouveront le goût de lire la Bible et de prier. Parfois, il suffit d'un rien, d'un grain de sable qui se met dans notre vie pour que nous soyons découragés. Vous croyez que moi, j'ai toujours été comme ça, mais ce n'est pas parce qu'on est sur la lion d'une tribune qu'on est toujours au top. Hein. Ce n'est pas vrai. On a besoin d'un encouragement, nous aussi. Et j'ai eu des moments dans notre vie eh bien, où la parole de Dieu ne m'intéressait plus parce qu'on était découragés. Il a fallu qu'on se refasse rebooster. Nous avons tous peut-être un moment difficile dans notre vie. Et à ce moment-là, nous avons besoin du soutien du frère et de la sœur qui est à côté de nous. Nous avons, frères et sœurs, à apprendre, comme cette femme, à balayer notre maison, à retourner tout ce qui est parfois un frein à la bénédiction, tout ce qui est une entrave à cette bénédiction entre Dieu et nous. C'est-à-dire, nous devons prier les uns pour les autres, entraider les uns les autres, afin d'avoir la victoire. Et quand la victoire est obtenue, frères et sœurs, nous devons nous réjouir pour ce frère et cette sœur dans la foi qui a obtenu cette victoire face à cette épreuve. Éphésiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Pas simplement se réjouir parce que on a un portefeuille bien garni. Se réjouir parce que le Seigneur nous a bénis et que nous avons la plus belle maison. Pas parce que nous avons la plus belle voiture, non. Nous réjouir parce que nos frères et sœurs vont bien. Parce que notre frère et notre sœur qui étaient dans la difficulté remontent la pente. L'apôtre Paul insiste sur le fait de se réjouir pour les autres, non seulement pour nous égoïstement, quand nous obtenons des victoires, mais pour les frères et sœurs. Surtout pour nos frères et sœurs dans la foi. Partageons notre joie ensemble. Ne gardons pas les bontés de Dieu pour nous, mais partageons-les afin que l'Église se réjouisse des bontés de l'Éternel. La radio chrétienne qui est aimée dans la région a ce slogan « La joie se partage ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, « La joie se partage ». Et je trouve que on doit partager notre joie, on ne doit pas la garder pour nous-mêmes. Parce que ça fait du bien de partager nos bénédictions, ça encourage les autres. Parce que parfois, nous vivons les mêmes difficultés, les mêmes épreuves, et Dieu nous aide à nous en sortir, alors partageons, et ça encourage les autres à dire, mais si le Seigneur a fait ça pour lui, je pense qu'il est capable de le faire pour moi. Voyons l'autre aspect de la réjouissance pour le chrétien. La troisième parabole que Jésus raconte, et je pense que c'est la plus connue. Verset 11 du chapitre de Luc, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim ». Je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. » Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, s'approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Elle se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, mais tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le troisième texte est sûrement le plus connu. Et nous avons souvent médité sur cette parabole. Cette fois, je voudrais plutôt analyser la réaction du fils aîné. Une réaction plutôt égoïste et dépourvue d'amour envers son frère. Ce garçon se croit supérieur et parfait. Non, moi je n'ai jamais chuté. Moi, j'ai toujours marché droit. J'ai toujours servi mon père. J'ai toujours travaillé dans la ferme, sans jamais me détourner quoi que ce soit. Du matin au soir, je travaille. Et je ne comprends pas comment mon père peut se réjouir de voir le retour de mon frère. Lui qui a dilapidé tout le bien. Lui qui a vécu dans la débauche. Et comment mon père peut-il l'accueillir à nouveau comme son fils ? Alors qu'il n'a rien foutu de bon. Hein. À l'école, il ne travaillait déjà pas bien. C'était vraiment un bon à rien. Et combien de fois ne disons-nous pas cela ? Parfois d'un membre de notre famille ou d'une connaissance ou d'un ami, je suis là. C'est au réquiem, hein, comme on dit à Liège. Hein. Mais non ! Pourquoi avons-nous toujours ces pensées négatives-là ? Et nous ne sommes pas prêts à l'accueillir. Nous ne sommes pas prêts à l'accueillir. Plutôt, on le critique de sa vie de débauche. Le fils prodigue, frères et sœurs, est l'image du chrétien que l'on ose appeler dans nos milieux bien-pensants, surtout évangéliques, j'insiste là-dessus, les chrétiens rétrogrades. Je vois quelqu'un dans le fond qui sourit, mais c'est vrai, c'est ça, c'est la marque de fabrique du chrétien qui ne marche pas dans le roi de Dieu, c'est le rétrograde. Oh, qu'est-ce qu'on a prêché sur les chrétiens rétrogrades. Et quand on a entendu certains messages, on n'a pas envie de rentrer au bercail, hein, parce que ce n'était pas les bras ouverts que le pasteur déclamait sa prédication. On avait plutôt envie de se cacher, et bien sûr, chaque chrétien pensait à quelqu'un. Hein, on dit, oh là là, ça c'est pour machin, ça c'est pour truc. Hein, on avait tous un nom en tête. Hein. Et on se disait, il a prêché pour lui aujourd'hui. Hein. Ça, c'est un peu la marque fabrique du chrétien parfait que nous sommes dans nos milieux, malheureusement. Et le chrétien, ce chrétien rétrograde, comme on ose l'appeler, fut tout un temps au milieu de nous. Au milieu de nous, dans nos assemblées, participant aux réunions. Peut-être même ce chrétien rétrograde et présidait le culte. Eh oui. Peut-être ce chrétien rétrograde était-il pasteur, un responsable d'église, un responsable d'école du dimanche, quelqu'un qui s'occupait de la diaconie, etc., etc. Nous en connaissons tous. De personnes qui ont marché avec nous dans la foi, et puis il est arrivé quelque chose, on ne sait trop bien quoi. Et puis, bien souvent, un bruit s'accourt, hein, vous le savez très bien, et on dit n'importe quoi sur n'importe qui. Et alors, ces pauvres gens-là sont critiqués. On n'essaye même pas de savoir pourquoi nous ne les voyons plus. Et puis, ce chrétien ou cette chrétienne qui était active, qui était bénie, eh bien, puis il y a eu une chute terrible. Il a chuté. Oh, c'est peut-être l'adultère, c'est peut-être le vol, mauvaise fréquentation. Il y a tant de sujets de chute pour un chrétien. Bref, ce chrétien que nous avons beaucoup apprécié s'éloigne de Dieu, s'éloigne de l'Église, s'éloigne de la famille de Dieu, et nous le voyons sombrer dans le péché. Et notre réaction, quelle est-elle? On le critique, on le juge. On dit, c'est normal qu'il est tombé. Et on raconte un tas de choses. Et avons-nous cette pensée de prier pour cette personne-là pendant qu'il est en train de chuter, pendant qu'il est en train de dégringoler dans sa vie spirituelle? Au lieu de le critiquer, avons-nous jamais songé peut-être avoir un entretien avec lui pour essayer de comprendre le pourquoi de cette chute, le pourquoi de ce retrait de la vie d'Église, le pourquoi de tout ce qu'il est en train de commettre? Ou préférons-nous critiquer ce frère et cette sœur, le laissant s'enfoncer dans le péché au lieu de prier pour lui? Oui, nous préférons le critiquer, avoir peut-être des commentaires désobligeants à son encontre. « Ah, je savais bien, c'était superficiel, c'était charnel sa vie chrétienne. » Voilà ce qu'on dit souvent. Il n'y avait rien d'un chrétien dans ce qu'il faisait. Et nous nous permettons un tas de réflexions négatives sur cette personne. Et de quel droit agissons-nous ainsi? Quel est le droit que nous prenons pour critiquer un homme ou une femme qui s'enfonce, qui fait naufrage par rapport à la foi? Au lieu de le porter dans la prière, nous l'enfonçons. Et dans cette parabole, je suis persuadé, frères et sœurs, que le frère aîné devait penser tout cela à l'encontre de son frère. « Oh, il nous a laissé tomber au lieu de continuer à travailler avec nous. Moi, je me suis acharné. J'ai dû faire le double de travail parce qu'il a quitté la maison familiale pour s'amuser. Ce n'était qu'un profiteur, etc. » Et c'est tout ce que nous pouvons penser parfois d'un chrétien qui fait naufrage par rapport à la foi, au lieu de nous dire « il peut se repentir ». Il y a toujours un pardon pour lui. Il y a un Dieu d'amour qui est prêt à le recevoir s'il revient. Non, nous l'enfonçons parfois de plus belle. Au lieu d'avoir de la compassion, nous avons de la critique. Mais je pense qui ne nous vient pas toujours à l'idée de prier pour lui. Peut-être au début, on se dit, Seigneur, bénis un tel, nous ne le voyons plus, mais après, on disait, à quoi bon prier? À quoi bon prier? Parce qu'il s'enfonce de plus en plus dans le péché. Et je crois, frères et sœurs, sans me tromper, que nous sommes parfois plus durs que notre Dieu, qui est un Dieu d'amour. Prêt à recevoir et à rechercher, comme le bon berger, à rechercher cette brebis perdue, à rechercher ce frère et cette sœur qui s'éloignent de plus en plus de la vie de Dieu. Et nous voyons que ce fils que nous appelons prodigue se repent. Il est complètement anéanti par ses fautes. Il est complètement anéanti par ce qu'il a fait. Il se rend compte qu'il a brûlé sa vie, qu'il a détruit sa vie, qu'il a fait de la peine à toute sa famille. Et qu'au lieu d'être heureux, il est malheureux. Et le désir, c'est de revenir. C'est formidable quand nous voyons quelqu'un qui revient au bercail. Que connaissons-nous, frères et sœurs, de l'état d'esprit de cœur et du cœur d'un enfant de Dieu qui revient? Imaginons qu'aujourd'hui, quelqu'un que nous savons qui a commis des choses abominables, qui était un chrétien formidable, qui reviendrait parmi nous. Comment allons-nous le regarder? Quels yeux allons-nous porter sur lui? Quel regard? Allons-nous vers lui, heureux de le revoir, ou restons-nous à sa place, en disant, ah, notre femme, t'as vu qui est là? T'as vu? Regarde, discret, parce que... Non, regarde, oh, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il va... Ben oui, c'est comme ça, malheureusement, que nous sommes... Nous sommes comme ça, nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Au lieu de nous réjouir, et le Seigneur à ce moment-là, il est réjoui, le ciel se réjouit, et nous, franchement, là, voilà, il va gâcher notre culte. Mais non, frères et sœurs, soyons heureux. Mais nous sommes bibliques. Pourquoi? Parce que nous faisons comme l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 5, nous livrons ces personnes à Satan. Oui, l'apôtre Paul a dit pour certains de ses collaborateurs, j'ai livré ces personnes à Satan. Alors nous sommes bibliques, nous sommes collaborateurs, nous avons livré ces gens-là à Satan. Au lieu de nous dire, Seigneur, retire-le des griffes de Satan, il peut encore revenir vers toi. Prions afin que ces personnes tombent dans les bras de Dieu. Frères et sœurs, la réaction du grand frère, ben oui, on voit qu'il n'apprécie pas le retour de son frère pécheur. Et le jugement tombe. Non, je ne vais pas me réjouir avec vous. Il ne mérite pas sa place dans la famille. Il ne mérite pas que je regarde. Comment ose-t-il encore venir au milieu de nous alors qu'il a laissé tomber la famille, alors qu'il est tombé si bas dans le péché et toutes sortes de critiques tombent. Frères et sœurs, si nous avons parmi nous quelqu'un qui revient, eh bien, accueillons-le avec joie. Soyons heureux qu'un chrétien se repente et qu'il revient dans les bras de Dieu. L'apôtre Paul dira dans les Romains chapitre 11, « Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Qui que tu sois, si tu reviens vers Dieu, Dieu te reprend. La porte est ouverte, car le temps de la grâce est encore là aujourd'hui. Ici, si nous voyons le Père rétablir son Fils dans sa position de Fils, il ne lui en veut pas. Bien sûr, il n'a pas été heureux de voir son Fils s'éloigner. Bien sûr, il n'a pas été heureux de voir la manière dont son Fils a vécu. Bien sûr que notre Dieu ne ferme pas les yeux et ne se réjouit pas quand un chrétien retombe dans le péché. Mais c'est un Dieu d'amour qui est prêt à recevoir celui qui se repent. Qui sommes-nous pour juger ou pour condamner le chrétien repentant si Dieu le rétablit dans son ancien statut? Pourquoi nous, humains, allons-nous y opposer? Frères et sœurs, 1 Corinthiens 10 nous dit « Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Si nous sommes debout aujourd'hui, rien ne nous dit que si nous ne prenons pas garde, demain nous n'allons pas chuter dans le péché, dans la débauche ou quelque chose d'autre. Chacun de nous doit prendre garde à la manière dont il vit, doit cultiver sa relation avec Dieu afin d'être préservé de toute chute. C'est à nous, frères et sœurs, à faire attention afin de ne pas tomber dans le péché, afin de ne pas tomber comme ceux qui sont tombés. Frères et sœurs, qui sommes-nous pour nous opposer à l'amour de Dieu? Soyons remplis d'amour et d'affection envers ceux qui se perdent. Ayons le fardeau des âmes. Ayons la compassion, de la compassion et de l'amour pour celui qui se repent et qui revient au Père. Si Dieu est amour, frères et sœurs, nous devons lui ressembler. Demandons à Dieu la force de penser, d'agir et d'aimer comme lui. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu es un Dieu d'amour et tu nous as pris tels que nous étions. Nous n'étions pas beaux à voir, nous étions sales, laids dans notre péché, mais toi tu es venu. Tu nous as lavés, purifiés, tu nous as revêtus d'une robe blanche. Tu as mis un anneau à notre doigt comme le Père dans cette parabole. Seigneur, merci pour le salut. Nous voulons penser à tous ceux qui sont perdus dans ce monde. Aide-nous à ne pas les mépriser, mais à prier pour eux. Seigneur, tu vois tous ces chrétiens qui ont combattu à nos côtés, qui ont chuté pour une raison ou pour une autre. Aide-nous à les accueillir, à prier pour eux, afin qu'ils reviennent auprès de toi. Bénis les membres de nos familles, bénis nos enfants, Seigneur, qui ont entendu ta parole et qui s'en sont éloignés. Aide-nous à les aimer, à les comprendre, à les attirer à nouveau vers toi. Que nous ne les critiquions pas, mais que nous soyons remplis d'amour envers tous ceux qui sont loin de toi, afin de les ramener dans ta maison et au bercail. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Amen.